Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Pascal Pic.
Bonjour Patrick Cohen.
Paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France, vous publiez un livre passionnant sur un sujet qui a été étonnamment peu défriché, du moins de cette façon. La préhistoire des femmes. D'où vient la domination masculine dans les sociétés humaines? Est-ce un fait de nature ou de culture? D'abord, et vous le faites remarquer dès le début de votre livre, il est assez fascinant de voir que, à ne parler que de l'évolution de l'homme avec un grand H, on soit passé à côté de celle des femmes.
Complètement. En définitive, il y a un adjectif qui apparaît tout le temps. C'est invisibilité. Invisibilité des femmes, parce que dès que vous regardez une gravure, une reconstitution de l'évolution dite de l'homme, donc en l'occurrence, je dirais, de l'humanité, bah, représente toujours que des hommes, surtout lorsqu'il s'agit d'innovations techniques, le feu, l'art, etc. Et en définitive, ceci va entraîner une sorte d'idéologie intégrée qui, lorsque les petites filles, les petits garçons voient ça à l'école ou lorsqu'ils voient ça chez eux, ils se disent « bah oui, bah tiens, c'est normal, c'est les hommes qui vont à la chasse, c'est les hommes dans les techniques et les femmes sont à la maison dans la domesticité et s'occuper des enfants ». Ce qui n'est pas du tout vrai, mais en l'occurrence, il faut bien se rappeler que la préhistoire, ma discipline, ou la paléanthropologie, qui est l'évolution biologique, et même l'ethnographie, qui est l'étude des autres peuples, donc on appelle aussi l'ethnologie, ça c'est du côté de l'analyse, est né quand même à la fin du XIXe siècle. Et le XIXe siècle, qui est le siècle du progrès, est un des siècles les plus marqués dans l'antagonisme sexuel, où en l'occurrence, il y avait l'idée que les hommes allaient au travail. Ceci va aller jusque dans les années 50. Hein. Des séries comme Desperate Housewives ou Mad Men le montrent très bien. Hein. Le modèle, on l'a transposé, c'était le modèle de l'homme le chasseur. Donc tout ceci a entraîné une invisibilité du côté des femmes. Et il y a des aspects tout à fait particuliers de l'évolution des femmes au niveau de la sexualité et de la reproduction, qui vont entraîner des conséquences absolument considérables sur l'évolution sociale des sociétés humaines depuis 2 millions d'années jusqu'à aujourd'hui.
Mais ce n'était pas l'objet d'études de la part de ceux de vos prédécesseurs
était dans ces habitudes-là, tout simplement.
Des anthropologues qui vous ont précédé. Votre livre, Pascal Pic, et l'évolution créée à la femme chez Odile Jacob, est construit comme une enquête, procédée par déduction, parce que pour le sens commun, l'opinion générale, les violences infligées aux femmes sont l'héritage d'un état de nature ou du monde animal. Donc vous examinez ce qui se passe chez les animaux et sur les animaux qui sont les plus proches des humains.
Alors oui, alors ça, curieusement, c'est quelque chose qui sort du champ des études en France, parce que nous avons d'autres traditions universitaires. Et là, il faut aller dans le monde anglo-saxon, où on va comparer les sociétés humaines aux sociétés donc les plus ou moins proches de nous. Et pour faire rapidement, les deux espèces les plus proches de nous dans la nature actuelle, avec lesquelles nous partageons un ancêtre commun récent, c'est 5 millions d'années, eh bien, ce sont les chimpanzés et les bonobos, qui sont d'autres chimpanzés. Les chimpanzés, donc dits communs, eux sont très violents. Hein, ils sont très violents avec les femelles.
Très coercitifs.
Avec une domination qui privilégie les mâles. Et de l'autre côté, on n'aurait pas les bonobos, il faudrait presque les inventer, si je puis dire. Où là, en l'occurrence, les femelles, on parle de gynocratie et non pas de matriarcat. Ouais. Et là, il y a un point très important. C'est que chez la plupart des espèces animales, notamment chez tous les singes et presque tous les grands singes, on a des sociétés qui sont dites matrilocales. C'est-à-dire que les femelles restent ensemble toute leur vie. Et pour quelle raison? Pour contrôler les ressources, le territoire, apprendre à être maman. On apprend à être maman chez les singes et les grands singes. Et aussi, c'est la capacité de se coaliser pour résister à la violence des mâles. Et là, il y a une exception particulière qui est propre à notre lignée. C'est la patrilocalité, où là, les mâles restent ensemble toute leur vie. C'est encore le cas dans la plupart des sociétés humaines. Les hommes restent ensemble toute leur vie, en tout cas, ou les jeunes hommes. C'est pareil chez les chimpanzés et les bonobos. Et là, évidemment, ça donne un avantage si les mâles sont ensemble toute leur vie depuis leur naissance. Mais en l'occurrence, on voit que les femelles bonobos ont trouvé des solutions pour éviter la coercition et en tout cas la violence des mâles. Donc ça veut dire que ce n'est pas figé dans les gènes, c'est vraiment des affaires d'évolution sociale entre les mâles et les femelles.
Donc l'exemple des bonobos montre que d'autres évolutions humaines étaient possibles.
Mais bien sûr. Donc en fait, il y a tout un espace des possibles, mais il se trouve que l'évolution a fait, et c'est ça qui arrive dans la deuxième partie du livre, qu'en est-il dans la préhistoire? Moi, je me souviens de discussions avec Françoise Héritier, très grande anthropologue, comme vous le savez, professeur au Collège de France. Elle disait, vous savez, Pascal, avant le néolithique, avant les grandes civilisations, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, c'est le seul livre qui, en fait, fait une synthèse entre notre espèce et les autres espèces, bien évidemment. C'est ce que vous disiez entre les bonobos et les chimpanzés, on le retrouve entre des espèces de macaques, on le retrouve entre des espèces de babouins. Donc la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme absolu lié à la lignée, c'est-à-dire un héritage coercitif, ou même à l'écologie. Eh bien, on retrouve la même chose dans les sociétés humaines. Et là, je suis allé voir ce qui se passe, donc la fin de la préhistoire, jusqu'aux inventions des agricultures. Et là, on s'aperçoit de la même façon qu'il n'y a pas de déterminisme absolu dans les systèmes économiques. Vous avez des chasseurs-collecteurs, ou plutôt chasseuses-collectrices aussi, devrait-on dire, dans les économies donc, de collecte et de chasse, où vous avez de la coercition, où d'autres, il n'y en a pas. Vous en avez d'autres chez les horticulteurs, donc c'est plutôt les jardins avec de la chasse, où là, vous avez des sociétés très coercitives, on est chez les humains là, et d'autres pas. Et pareil pour les sociétés agricoles. Sauf que la plupart des études que nous avons sont basées sur l'Afrique et surtout le Proche-Orient et l'Europe. C'est là qu'on a le plus de données. Et pas de chance, si je peux me permettre, ce sont là que ont émergé les sociétés les plus patriarcales. Donc le système s'est renforcé lui-même, non pas avec la volonté de le biaiser. Et en l'occurrence, on s'aperçoit que ce qui se passe dans des sociétés qu'on va dire matriarcales, avec de gros guillemets, matrilinéaires, c'est-à-dire transmission du statut de mère en fille ou matrilocale, en l'occurrence, il y a beaucoup de sociétés humaines, elles ont été complètement négligées pour une bonne raison, qui était liée à notre histoire. L'Occident a dominé le monde, on a fouillé en Occident et au Proche-Orient, ce sont les sociétés les plus patriarcales, donc on a cru que c'était la seule grande vision du progrès qu'il y avait, parce que nous avons dominé jusqu'à la fin du XXe siècle, la Chine nous raconte une autre histoire maintenant, et donc toute cette question des hommes et des femmes est en train de réémerger, et il manquait cette dimension anthropologique.
Mais c'est absolument passionnant, et je pense que les féministes vont s'emparer de votre livre. Il n'y a pas de déterminisme.
Il n'y a pas de fatalité.
Mais en revanche, il y a une idéologie de la domination masculine, c'est-à-dire que les causes principales du malheur des femmes sont d'ordre culturel.
Absolument. Et là, nous sommes entrés dans la deuxième phase de confinement. J'ai regardé les statistiques dans le monde sur les homicides. 364 000 homicides dans le monde, hommes-femmes confondus, 87 000 pour les femmes. Et en fait, 60% sont liés à des sévices, donc à des meurtres en l'occurrence, qui sont que la pointe de l'iceberg, qui sont avant tout dans le milieu familial, les anciens partenaires ou les partenaires courants, ou l'ensemble de la famille, comme les crimes d'honneur. Mais il y a une chose qui est incroyable, c'est qu'on a une tendance dans le monde à la diminution des homicides, ça c'est très clair, il y a de moins en moins de violence dans le monde, mais il y a un plafond, c'est-à-dire quand ça décroît, c'est les homicides des hommes vis-à-vis des hommes, ou voire vis-à-vis des femmes. Par contre, même en Europe, on arrive quasiment à l'égalité entre le nombre d'homicides vis-à-vis des hommes et des femmes, eh bien il y a un espèce de seuil sous lequel on ne va pas. Et en l'occurrence, ça montre bien que ce n'est pas qu'une question de sociologie ou d'économie, c'est vraiment une question d'anthropologie. Qu'est-ce qui fait que ces idéologies ont du mal encore à s'en aller, même quand les chiffres se rapportent en termes de sévices?
Et ce que j'ai retenu de votre livre aussi, Pascal Pic, c'est que nous sommes, nous les humains, l'une des espèces vivantes les plus agressives à l'égard des femelles que sont les femmes.
Absolument. Et ça, malheureusement, je ne dis pas cela parce qu'on m'a accusé sur Internet de mettre de l'huile sur le feu.
Ah bon ?
Écoutez, moi, j'en ai rien à faire que les chimpanzés soient violents, que les bonobos soient gentils. Ce sont les chiffres, malheureusement. Ouais. Et la question qui est adressée dans le livre, est-ce que ça remonte aux premières civilisations, à la préhistoire ou pas ? C'est ça qu'on découvre.
Ce que vous nous proposez, Pascal Pic, c'est un point de vue évolutionniste.
Bien
vous
sûr.
Êtes un disciple de Darwin. Or, un homme qui a fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois, Didier Raoult, a produit il y a quelques années un livre qui remet en cause la théorie de l'évolution, qui explique que Darwin s'est beaucoup trompé, voire complètement. Vous avez lu ou relu ce Darwin par Raoult ?
Oui, il n'a rien compris, l'ami Raoult, soyons très clairs, comme il n'a rien compris sur ce virus. Pourtant, c'est un grand virologue, soyons très clairs. Mais dès qu'il touche à l'évolution, pourquoi ? Son argument au départ est intéressant. Il dit, les virus, on le sait aujourd'hui, ça passe entre les espèces. Donc il n'y a pas d'espèces. Il dit, donc l'évolution des espèces, ça n'a pas beaucoup de sens parce que les virus, qui est un monde qu'on découvre depuis peu de temps, sont en train de bousculer tout ce qu'on croyait dans ces barrières entre espèces et les processus d'évolution. Mais justement, ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'apparition de la sexualité, des cellules, des organismes complexes comme les nôtres, sont justement des réponses au virus. Donc lui a complètement inversé le processus, et puis surtout en France, vous savez très bien, en tant que journaliste, cher Patrick Cohen, il suffit de dire que Darwin s'est trompé pour passer dans tous les médias, ce qui est un peu court. Darwin n'a pas tout juste, il n'a pas tout faux. Ouais. Franchement, Newton a été revisité par Einstein, mais ça ne remet pas du tout les causes et les théories de Newton. Einstein, ça a avancé, maintenant on a Stephen Hawking, donc l'évolution progresse comme ça. Donc c'est quand même très curieux, il y a un problème d'épistémologie, c'est-à-dire de compréhension de la construction du savoir par rapport aux sciences. Bon, maintenant, M. Raoult est extrêmement doué pour utiliser les médias, on le sait très bien, c'est pas une découverte. Mais là-dessus, c'était complètement trompé, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc il est bon pour regarder les microbes, mais alors
les
dès
virus.
Qu'on passe... Mais dès qu'on... Oui, parce qu'il est microbiologiste, mais dès qu'on passe à l'homme, ça déraille.
Dès qu'on passe aux théories de l'évolution, c'est des théories beaucoup plus complexes qu'on ne le croit, et qui sont malheureusement assez mal enseignées, donc ça c'est notre faute, à nous les universitaires, pourtant ça avance beaucoup dans les programmes scolaires. Et là, ce qui manquait, notamment en sciences humaines, et ça j'en parle beaucoup dans le livre, il y a une réticence vis-à-vis des approches que sont celles des nôtres. Pour quelles raisons ? Ben, il y a eu des dérives dans l'histoire. Regardez, on parlait du confinement. Et vous avez les pays qui ont voulu jouer sur l'immunité collective. Donc on a vu jouer avec la sélection naturelle. C'est une catastrophe. L'Angleterre s'en remet pas, la Suède s'en remet pas, etc. Faut pas jouer avec la sélection naturelle. Mais il y a eu des tentatives eugénistes. L'eugénisme, c'était dans ces pays, justement, comme l'Angleterre, l'Allemagne, etc., qui, au nom de Darwin, se sont dit, éliminons les plus faibles ou les autres ou les tards. Donc, et ça, évidemment, c'est absolument inacceptable. On peut pas l'accepter, même si on est évolutionniste. Donc, il y a une réticence de la part des sciences humaines que je comprends, mais attendez, soyons apaisés. Aujourd'hui, les théories de l'évolution, évidemment, ne sont pas du tout au service de ces approches, même en médecine, qui sont complètement aberrante. Et là, aujourd'hui, c'est une contribution. Regardons un petit peu comment les sciences de l'évolution peuvent contribuer, avec les sciences humaines et sociales, à ce grand problème des rapports entre les hommes et les femmes.
Un dernier mot, Pascal Pic, il vous revient parfois du système scolaire des témoignages d'enseignants encore aujourd'hui qui ont du mal à enseigner la théorie de l'évolution dans leur classe.
Absolument. Et là, je l'ai vu récemment, j'étais au salon des rendez-vous du livre de Blois, un très beau salon, j'étais devant les lycéens, et on voyait bien comment il y avait un malaise, notamment c'était de jeunes garçons, qui n'étaient pas hostiles à mon discours, mais qui n'avaient jamais entendu d'autres discours, et qui se sont dit, ah mais c'est ça les théories de l'évolution. Donc vous voyez, il y a de grands enjeux pour comprendre nos... l'évolution, c'est pas le passé, c'est ce que nous sommes en train de connaître.
Merci beaucoup Pascal Pic et l'évolution créa la femme, grand livre, en tout cas livre important, paru chez Odile Jacob. Merci à vous.
Merci Patrick Cohen.
Europe Midi, Patrick Cohen.